Bonjour, ici Jan Steele, alias La Goose. En direct depuis le Parc National des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc National des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie, et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y! Les tout premiers pas vers une alimentation sans gluten. Lorsque l'on veut ou l'on doit adopter une alimentation stricte sans gluten, le tout premier pas, c'est de respirer. Peut-être que vous revenez de chez le médecin et vous pouvez enfin mettre un nom sur ce qui vous rend malade. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, vous allez devoir entamer une modification assez profonde de votre alimentation et cela impliquera beaucoup plus que de la nourriture. Centrale à nos habitudes, à nos traditions, à notre vie sociale, à notre culture, la nourriture touche à presque tous les aspects d'une vie. En mangeant sans gluten, vous ne ferez plus partie de la norme sociétale. Et beaucoup de situations qui ne vous ont jamais auparavant provoqué la moindre réflexion vous poseront dorénavant problème. Mais pas de panique. Si les défis sont nombreux, les solutions le sont aussi. Donc, soufflez, pleurez un bon coup s'il le faut, mais ensuite, rappelez-vous votre pourquoi. Vous n'alliez pas bien et vous souhaitiez vous sentir mieux dans votre corps. Vous méritez de retrouver une santé robuste et une vie joyeuse. Allons-y donc. Le gluten se trouve dans quels aliments ? Pour nous aider à retenir les céréales dans lesquelles se trouve du gluten, l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten, propose l'acronyme SABO, seigle, avoine, blé, orge, triticale. Jusque-là, cela paraît simple. Mais l'histoire est plus compliquée qu'il ne paraît. Les aliments d'aujourd'hui sont très rarement composés des produits aussi bruts qu'une céréale entière. On doit donc chercher sur les étiquettes ces céréales, mais aussi tous leurs pseudonymes et tous leurs dérivés. La liste des ingrédients à éviter s'allonge. Heureusement, nous ne sommes pas seuls à faire face à cette problématique. Loin de là. La fréquence des allergies alimentaires et leurs conséquences sur la santé ont amené les pouvoirs publics à instaurer des mesures d'information du consommateur. En Europe, tout produit contenant l'un des 7 allergènes majeurs, dont le gluten fait partie, doit en faire la mention sur l'étiquette, en signalant l'ingrédient problématique en gras et en précisant l'allergène plus bas. Dans le cas où un produit contient de l'amidon modifié de blé, par exemple, vous verrez « amidon modifié » dans une police « gras » avec la mention plus bas sur l'étiquette « allergène blé ». Vous pourrez alors déduire que l'amidon modifié en question est un amidon modifié de blé, qui contient donc du gluten. De la même manière, vous pourrez déduire qu'un amidon modifié écrit sans signalement par la police en gras, ni de mention d'un allergène spécifique, est fait d'un aliment naturellement sans gluten tel que le maïs ou la pomme de terre. Bon, je cherche donc à éviter les ingrédients signalés par la police en gras avec un signalement de l'allergène gluten. Mais concrètement, ces ingrédients se trouvent dans quels aliments ? Très grossièrement, le gluten se trouve dans la plupart des produits boulangers. Les pains, les muffins, les gâteaux, les biscuits. Au niveau des repas, on parle au petit déjeuner des tartines, des cracottes, des céréales, des gruots, des pancakes, des gaufres, etc. Au déjeuner et au dîner, on parle des pizzas, des pâtes, des panures, des soupes et des sauces épaissies. Enfin, au niveau des desserts, on parle de tout ce qui est pâtisserie. Maintenant, avant de paniquer, il est important de comprendre que des versions sans gluten de tous ces aliments existent. qui soit déjà en vente ou préparable par vous dans votre propre cuisine. Vous n'allez donc pas devoir vous priver de vos aliments préférés s'ils se trouvent dans la liste ci-dessus. Seulement, vous allez dorénavant devoir consacrer un peu plus de temps, d'énergie et ou d'argent à des repas que autrefois vous pouviez simplement vous commander ou acheter en ville. C'est donc un grand changement. Et l'adoption d'une alimentation stricte sans gluten se court plus comme un marathon que comme un sprint. Surtout au début, ne cherchez pas à tout comprendre, mais fiez-vous à la réglementation européenne et évitez tout produit dont un ou plusieurs ingrédients sont signalés par une police en gras, avec l'allergène du gluten signalé plus loin. Ce sera déjà énorme. Maintenant, parlons de ce par quoi vous allez vouloir remplacer tous ces aliments. Parce qu'on ne va pas non plus survivre en ne mangeant que des pommes, des carottes et des madeleines sans gluten. Là où les conseils médicaux sont, en tout cas à mon sens, très insuffisants quand on est diagnostiqué de la maladie cœliaque, c'est au niveau nutritionnel. Car il va sans dire que si on était poignardé, un médecin ne se contenterait pas seulement de retirer le couteau. Il faut aussi soigner la blessure. Dans le cas de la maladie cœliaque, c'est pareil. C'est notre intestin grêle qui a subi des dommages physiques, et ce, depuis un moment plus ou moins long. Afin qu'il y ait rétablissement pour de vrai, il ne suffira donc pas de retirer le gluten. Selon la durée de votre recherche de diagnostic, il est fort possible que vous vous soyez creusé des carences nutritionnelles, car c'est par le biais de notre appareil digestif que nous puisons les nutriments. Mais s'il est en panne depuis un moment? Nous avons donc deux priorités. Numéro 1, chouchouter notre intestin grêle afin qu'il se rétablisse au plus vite. Et numéro 2, consommer une alimentation la plus dense en nutriments qui soit, afin de refaire le plein d'éventuelles carences qui ont pu se creuser lors de notre phase malade. Comment chouchouter mon intestin grêle? Une période prolongée de maladie digestive peut engendrer une hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est? Parlons-en très rapidement. L'appareil digestif est l'organe qui nous sert d'interface avec le monde à l'extérieur de notre corps. Si l'on imagine que le tube digestif, qui parle de la bouche et va jusqu'au point d'évacuation, c'est un boyau qui sert à tenir à l'extérieur de notre corps les aliments que nous mangeons jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment digérés et convenablement triés. En temps normal, la paroi de l'intestin grêle est seulement assez perméable pour laisser accéder vers l'intérieur du corps, c'est-à-dire vers le sang, les molécules correctement et complètement digérées. En cas d'hyperperméabilité intestinale, passent trop vite dans le sang des molécules partiellement digérées, ce qui déclenche une réaction du système immunitaire. Plus la paroi intestinale est perméable, plus le simple fait de manger fait un appel répétitif au système immunitaire, qui, lui, finit par se dérégler. Rappelons-nous que la maladie cœliaque est une maladie auto-immune. Elle s'exprime par l'intestin grêle, mais il s'agit d'abord et avant tout d'un dérèglement du système immunitaire. Si l'on se contente de supprimer le gluten sans pour autant se pencher sur le rétablissement d'une santé intestinale robuste, on peut ne pas voir se rétablir notre santé. Pire encore, si l'on n'interrompt pas le phénomène de l'auto-immunité, on augmente les risques de développer une deuxième, voire une troisième, une quatrième maladie auto-immune. Afin de chouchouter votre intestin et favoriser son rétablissement au plus vite, je souligne donc au moins un nutriment que je trouve crucial lors de la transition vers une alimentation sans gluten. Il s'agit de la glutamine. La glutamine est une acide aminée qui se trouve dans le bouillon d'os. C'est LE nutriment de préférence des muqueuses intestinales et donc un bon aliment à inclure dans son alimentation après une période de maladie digestive chronique. Vous pouvez vous-même préparer du bouillon d'os dans un cuiseur à pression. Dans les notes de l'épisode, je vous fournirai un lien vers une vidéo sur ma chaîne YouTube si vous vous intéressez au sujet. Ensuite, consommez une alimentation la plus dense en nutriments qui soit afin de refaire le plein d'éventuelles carences qui ont pu se creuser lors de notre phase malade. Qu'est-ce donc une alimentation dense en nutriments? Eh bien, les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner sont les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux. Où se trouvent alors tous ces nutriments? Les aliments les plus denses en nutriments sont les produits bruts, les fruits, les légumes, les viandes pures, les poissons et les fruits de mer. Et vous savez quoi? Tous ces aliments sont, d'emblée, naturellement sans gluten. Chouette! Pour estimer les nutriments que peut offrir un aliment, une bonne règle de base est que plus un aliment est transformé, moins il sera nutritif. Une pomme locale, fraîchement cueillie par exemple, aura bien plus de nutriments qu'une pomme-pote. Pourquoi ? Mais parce que les pommes utilisées pour fabriquer des pommes-potes, même celles sans sucre ajouté, ont dû être bouillies à haute température, ce qui altère les fibres de la pomme, tue les enzymes et élimine aussi bon nombre de vitamines. Après, tous les produits ne sont pas comestibles dans leur état brut. On se voit mal croquer des grains de riz entiers, par exemple. Il y a donc un juste milieu à trouver. Mais si nous supprimons les pains et les produits boulangers classiques, si nous supprimons les céréales et les pâtes avec gluten, si nous minimisons notre consommation de produits industriels à moins qu'ils soient sans allergènes, si nous achetons de préférence les produits bruts pour préparer nous-mêmes nos repas, on fera d'une pierre deux coups, car nous améliorerons la densité nutritionnelle de nos repas tout en respectant notre besoin du sans gluten. Petite parenthèse sur la contamination croisée. Vous entendrez sans doute parler de la contamination croisée et les dangers qui y sont liés. Je dédierai un épisode entier à ce sujet, mais version anti-sèche, voici ce que vous devez savoir au début. La contamination croisée arrive dans les moments où vos aliments naturellement sans gluten seront contaminés par des restes. Des restes qui demeurent sur un comptoir mal essuyé, dans une poêle mal lavée ou dans un condiment partagé. Pour l'instant, utilisez juste votre bon sens et ne partagez pas, par exemple, la moutarde dans laquelle vos enfants plongent à répétition leur couteau pour tartiner leur pain classique. Ils y laisseront forcément des miettes de pain qui viendront ensuite contaminer votre nourriture. Tada ! Contamination croisée. Je sais à quel point ça peut paraître intimidant au début de devoir manger sans gluten, mais je vous assure que c'est tout à fait possible. Mes enfants et moi en sommes la preuve. Si vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois à la Gousse. Visitez dès maintenant le site web pour voir les dates. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée, une pause salutaire pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr/podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah, ah.